Radio Éthique.
Écoute la planète.
Chaque jour, un tête-à-tête sur la planète, c'est l'invité de Radio Éthique.
Tariq Tchatchak a plusieurs casquettes, ou plutôt plusieurs bonnets. Le scientifique est directeur science et environnement de l'équipe Cousteau en Europe et de la Cousteau Society aux États-Unis. Mais Tariq Tchatchak s'est engagé bénévolement dans ce qui, dans sa démarche scientifique, est désormais une évidence, le biomimétisme.
J'ai un bonnet rouge et quelques autres casquettes. Bonnet rouge pourquoi ? Parce que je suis directeur science et environnement de l'équipe Cousteau et de la Cousteau Society aux États-Unis. Et puis, alors, je suis par ailleurs secrétaire du bureau français de l'association Biomicro-Europa qui promeut le biomimétisme. Et en fait, mon dernier boulot aussi, c'est chef d'expédition sur des navires polaires dans l'Arctique et en Antarctique.
Voilà, au moins vous ne vous ennuyez pas. Quel est le lien entre votre travail entre guillemets classique et le biomimétisme ?
Alors le lien, c'est tout simplement que j'ai beaucoup travaillé en tant que biologiste sur des thématiques liées à la protection de l'environnement marin, à travers entre autres mon engagement dans le cadre de l'équipe Cousteau. Ça, c'est mon travail salarié. Petit à petit, j'avais l'impression quand même de mettre, comme on dit, un pansement sur une jambe de bois et de pas m'intéresser vraiment à la source des problèmes. Quand on voit le plastique qui arrive à travers les courants et qu'en même temps on est en train d'essayer de protéger les tortues, de protéger les mammifères marins, créer des parcs nationaux marins, eh bien c'est comme si on essayait de régler sur un territoire des problèmes mais qu'on n'a pas coupé le robinet d'où viennent ces problèmes. Donc à un moment donné j'ai réalisé que le problème il venait probablement de ce qu'on appelle la technosphère, c'est-à-dire tous les savoir-faire que l'humanité a qui sont brillants pour régler des problèmes à court terme mais qui s'avèrent créer toutes sortes de conséquences au niveau du système, ce qu'on appelle des conséquences systémiques ou des externalités en langage économique. Est-ce que c'est une fatalité finalement ça ?
Mais à votre avis, comment se fait-il que l'être humain qui a quand même tout construit de son propre univers avec des choses tout de même assez prodigieuses soit parti dans ce grand écart avec la nature ?
Eh bien, parce qu'on est une espèce tout à fait particulière, c'est vrai, mais une espèce parmi d'autres néanmoins dans cette grande toile de la vie qui existe sur cette planète depuis 3,8 milliards d'années. Et l'humain est apparu, l'Homo sapiens sapiens, en tout cas il y a à peu près 200 000 ans. Donc on est une espèce jeune. Et cette espèce jeune, elle a quand même une caractéristique incroyable, c'est qu'elle a la capacité de réfléchir à sa place dans le monde et à inventer également des modèles conceptuels. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on peut aussi inventer des modèles conceptuels qui nous déconnectent des réalités sous-jacentes. Et c'est un peu ce qui s'est passé, je pense. C'est une grande aventure commune, hein. Il n'y a pas les méchants d'un côté et les bons de l'autre. Je pense que notre intelligence nous a mené aussi à nous éloigner de l'arbre de la vie, quelque part, qui nous maintient. On a commencé à scier la branche dont on dépendait pour reprendre des métaphores connues de tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de se resynchroniser grâce à cette intelligence, donc l'utiliser toujours, hein, mais se resynchroniser avec les grands flux de la planète, les flux de matière, d'énergie. Et ça commence à arriver, c'est ça qui est vraiment intéressant. On parle d'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité également peut contribuer, mais également d'une chimie qui comprend comment la biosphère a développé une chimie à base d'eau comme solvant universel, à base d'éléments qui sont abondants et non pas d'éléments rares comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore.
On utilise les terres rares, on en a tous dans notre téléphone portable. Est-ce que l'on pourrait faire différemment ? Est-ce que pour le carbone, on pourrait faire différemment ?
Il y a par exemple tout un courant de développement d'électronique basé sur l'électronique dite organique. Par exemple, dans l'application concrète des panneaux solaires où on a besoin de haute pression, haute température et terres rares pour utiliser l'énergie solaire, ce qui est paradoxal, hein, puisqu'on parle d'énergie renouvelable, mais l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale, la construction d'un panneau solaire, elle n'est pas négligeable. Eh bien, il y a maintenant des équipes qui travaillent sur la photosynthèse artificielle, donc la capacité d'utiliser l'énergie solaire sur base de gel, qui ressemble beaucoup à ce que les plantes font. On n'est pas encore capable de faire des choses qui sont commercialisables sur une grande échelle, mais il y a déjà des applications intéressantes qui commencent à sortir de ces recherches. Et je pense que dans les prochaines décennies, ça sera pour cet exemple-là, la nouvelle génération de panneaux solaires, est-ce qu'on appelle vraiment des innovation de rupture. On va faire différemment de ce qu'on faisait avant.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on a fait plus simple et que imiter la nature c'est un pas de plus parce que c'est plus compliqué ?
Plus simple, non. Bien souvent on s'est quand même cassé la tête beaucoup pour inventer des systèmes technologiques extrêmement efficaces. Mais la notion d'efficacité elle est à revoir aussi parce que pour moi quelque chose qui est efficace à court terme mais s'avère créer toutes sortes de problèmes stratégiques ou systémiques à long terme, ce n'est pas si efficace que ça. Les panneaux solaires, pour reprendre ce cas, quand on dépend de terres rares qui sont stratégiquement situées dans quelques pays qui commencent d'ailleurs à fermer leurs frontières, on s'engage dans un cul-de-sac. Alors que si on utilisait quelque chose qui était abondant autour de nous, et que dès le départ, on donnait dans le cahier des charges des ingénieurs, brillants ingénieurs qui travaillent sur ces questions-là, ben voilà, moi je veux que vous utilisiez ce qui est autour de vous, ce qui est abondant et pas ce qui est rare, je suis persuadé que leur intelligence leur permettrait de découvrir des choses absolument fascinantes et qui soient plus en opposition avec le bon sens, tout simplement, qui semble sortir des systèmes vivants qui sont hébergés par notre planète depuis des milliards d'années. C'est juste du bon sens.
Si vous remettez votre bonnet rouge, qu'est-ce que, à l'échelle de l'océan, en termes de biomimétisme, vous choisiriez en priorité ?
Tout le monde a entendu parler des problématiques liées au plastique, hein. J'ai pu pu constater moi-même en allant au Groenland, au Spitzberg, dans des endroits absolument vierges de toute présence humaine, où on trouve quand même sur les plages...
Vous avez des lieux de villégiature quand même assez éloignés.
Mais justement, c'est d'autant plus parlant quand on est éloigné de toute civilisation et qu'on se rend compte qu'il y a les traces très indésirables de cette civilisation autour de nous. Ça donne à réfléchir et ça nous montre bien qu'on est un monde interconnecté. Donc, un des enjeux importants, je pense, par rapport aux océans, c'est entre autres l'utilisation des plastiques et encore une fois, réfléchir jusqu'au bout à ce que ça veut dire. C'est pas parce que ça disparaît de nos yeux, par exemple, qu'il n'y a pas encore des déchets plastiques, des microparticules qui vont dans les branchies des poissons et qui vont causer toutes sortes de problèmes. Mais un autre thème qui est de plus en plus important par rapport aux océans, c'est comme pour le reste de la Terre, le changement climatique et également la quantité de carbone que l'on prend du sol et qu'on balance dans l'atmosphère. Et en passant, le vivant a fait exactement l'inverse depuis des milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y avait au tout début de la création, de l'apparition de la vie sur Terre, il y avait énormément de carbone dans l'atmosphère et le vivant a eu tendance à extraire ce carbone et à l'enfermer dans la lithosphère, dans le sol, donc l'extraire du cycle. Et nous, en 200 ans, on fait exactement l'inverse et on s'étonne qu'il y a des problèmes. Cet excès de carbone dans l'atmosphère provoque une acidification des océans. Et il y a toutes sortes d'organismes qui sont peut-être moins impressionnants que les baleines et que les dauphins et que tous ces animaux qu'on aime bien voir, mais qui font leur coquille à base de calcaire. Tous ces organismes-là, qui sont essentiels dans la chaîne alimentaire océanique, ne peuvent plus faire leur métabolisme comme avant. Et ça peut provoquer des gros problèmes dans le futur si jamais cette acidification de l'océan continue. Donc ça, c'est sérieusement une question qui est encore même plus grave que les plastiques.
Pendant que la nature s'est employée à enfouir le carbone, nous l'avons extrait en cherchant à tout prix à en extraire encore. Tariq Chekchak, l'homme aux plusieurs bonnets, était l'invité des mardis de l'environnement consacré au biomimétisme.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.